Seigneur, je veux te demander maintenant, te remercier d'abord d'être parmi nous, Seigneur. C'est un honneur de pouvoir chanter à ta gloire ce matin, Seigneur, en ce moment de louange. Et on te demande maintenant, Seigneur, tu veuilles bien nous nourrir, Seigneur, par ta parole. Viens planter cette parole dans nos cœurs, Seigneur, et nous montrer que c'est pas un truc sec et mort, mais que c'est un truc bien vivant qui agit, qui a un impact pour nos vies, Seigneur. Et qui peut toucher le monde, Seigneur. Et on prie pour que Georges soit un instrument qui puisse communiquer cette parole, Seigneur, ce matin. À ta gloire. Amen.
C'est toujours impressionnant de voir tant de monde. Le Seigneur est bon. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Non seulement il est bon, mais il se révèle. Et le thème que j'ai pris pour cette matinée, dans la prédication, c'est un thème qui est très peu utilisé, je pense. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je vais aborder ce sujet. Ce sont les arbres. Les arbres. A-R-B-R-E-N-S, quand il y en a plusieurs. Alors, je dis que c'est un thème qui est très peu utilisé. Et pourtant, on voit que dans la parole de Dieu, souvent, ils sont mentionnés. Alors, je demanderai à Pierrick, j'aimerais que ce soit fait avec les trois croix, si c'est possible. Voilà, très très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit là? C'est dans Ésaïe 55, verset 12. Oh, ben, si je descendais, ce serait un petit peu mieux, pour que je puisse lire en même temps que vous. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Et tous les arbres des champs battront des mains. Je ne sais pas comment vous concevez une telle parole, mais moi je trouve que c'est merveilleux. Que la création puisse battre des mains devant ce Dieu qui est si grand, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a tout fait d'une manière merveilleuse. Il y a un autre verset que je n'ai pas donné pour qu'il soit inscrit, mais ce verset, vous pouvez le trouver dans 1 Chronique, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 16 et verset 33, où il est dit que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Donc voilà, nous savons que l'Éternel a créé sur sa parole et la chose arrive et prend place. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ça, Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que lui, s'il dit une parole, la chose se réalise. Il n'est pas comme l'homme qui souvent dit des choses, mais bon, on s'aperçoit que entre le moment de le dire et la réalisation, il se passe des fois un grand temps. Si vous prenez la parole de Dieu, et moi je conseille de la lire, vous allez découvrir que dès le début de la Genèse, il est dit que Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Moi j'aime bien les précisions que la parole nous donne. Et là, il fait pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir, est bon à manger. Et il est dit que l'homme, Dieu a installé l'homme dans ce jardin pour qu'il en soit le gardien. Et en même temps, il pouvait manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf, c'est ça qui est important, sauf un certain arbre. On ne sait pas ce que c'est cet arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on ne sait pas s'il y a un fruit, quel fruit c'est. Jusqu'à aujourd'hui, certains ont dit c'est la pomme. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont été chercher ça. Je ne sais pas. C'est pour ça que depuis, il y a la pomme d'Adam. Non. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Dieu est comme ça. Dieu ne dit pas tout. Et il nous a dit que la désobéissance de l'homme et de la femme, malgré la recommandation de Dieu qui leur a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », Mais ils ont désobéi et ils ont mangé de ce fameux fruit, de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et on sait que ça a entraîné plein de choses négatives. Et une des choses négatives que je tiens à mentionner ce matin, c'est qu'ils se sont réfugiés, parce qu'ils ont eu peur, près d'un arbre. Et cet arbre, c'est un figuier. Première fois dans la Bible où il est mentionné un arbre avec son nom, dont on sait bien sûr le fruit qu'il porte. Mais eux, ils ne sont pas réfugiés pour manger du fruit. Ils se sont réfugiés sous l'arbre pour prendre les feuilles du figuier et pour s'en faire un vêtement, pour cacher la nudité qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils avaient désobéi. Tout le long de la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui se sont tenus près des arbres. Par exemple, on va essayer d'en voir quelques-uns. L'homme a toujours besoin, à un moment ou à un autre, de se retirer dans un lieu qui pour lui sera un lieu secret. Et l'arbre est souvent le lieu où l'homme peut faire monter vers Dieu son besoin. Abraham, il nous est dit que dans la parole qu'il aimait se tenir près des chênes de Mamré. C'était son lieu, c'était là qu'il pouvait rentrer en contact avec son Dieu, c'est là qu'il pouvait l'invoquer et lui faire part de ses difficultés, de ses besoins. C'était là qu'il se tenait. Et il nous a dit qu'un jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va lever les yeux et là, surprise, il voit trois hommes. Trois hommes debout devant lui. Il se lève aussitôt et il se prosterne devant eux. Alors vous allez me dire, tiens, c'est étonnant. Non, il n'y a rien d'étonnant. Parce que Abraham connaissait son Dieu. Il savait que ceux qui étaient là devant lui, ce n'étaient pas des hommes comme nous. Ils avaient une importance, quelque chose, qu'ils avaient un message qu'ils allaient amener. Et ce jour-là, c'est un jour que Abraham a dû marquer spécialement parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Premièrement, ces trois hommes lui ont annoncé une postérité. Parce que Sarah était stérile, Dieu lui avait promis une postérité, mais voilà que là, il l'annonce de manière claire. Sarah enfantera le fils de la promesse, mais il va se passer quelque chose d'autre. C'est qu'au moment où deux de ces trois hommes commencent à partir, un troisième reste. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant, qui doit nous interpeller aussi à nous. C'est que cet homme-là va lui dire certaines choses et va lui dire la raison pourquoi ils sont venus. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient rien dit, sauf d'annoncer la postérité. Et il va dire, on vient parce qu'on a entendu que la méchanceté était telle dans certaines villes comme Sodome et Gomorre, qu'on vient contrôler et il venait pour détruire ces villes, avec tout ce qui composait ces villes. Alors là, Abraham est surpris parce que lui, il sait que son neveu, Lot, est là, dans Sodome. Et alors, il va commencer à y avoir quelque chose de merveilleux, c'est qu'il va commencer à prier. Il va interpeller cet homme, parce qu'il sait qu'il a affaire à Dieu. Il va lui dire, mais attends, s'il y a 50 justes dans cette ville, tu vas la détruire? Et la réponse va être claire, il va dire non. Je ne vais pas détruire s'il y a 50 justes. Et on voit qu'il va y avoir comme ça une dégradation dans la demande, jusqu'à arriver à un moment donné, il va dire, mais s'il y a 10 justes dans cette ville, est-ce que tu vas détruire? Et la réponse va être non, s'il y a 10 justes. Et ça s'arrête là, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas aller plus bas que 5, que 10. Et on sait, bien sûr, ce qui s'est passé là, à Sodome et Gomorre. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais à la fin, Sodome et Gomorre ont été détruites par le feu qui est descendu du ciel. Vous savez, le feu, dans la Bible, c'est un jugement. C'est un jugement, le feu. Vous pouvez suivre, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est, suivez dans la parole. Et vous allez voir que chaque fois qu'il y a un jugement, le feu a été la solution. Alors, je n'ai pas inscrit ça, je passe au-dessus. Hein. Un jour, beaucoup plus tard, un problème se passe parmi le peuple. Il y a des murmures. Et vous savez que aujourd'hui, il n'y a pas de murmures dans le peuple. Non, ça n'existe plus, ça. Le murmure, oh non. Vous croyez qu'il y a des murmures? Non. Mais à l'époque, il y en avait. Et un jour, c'est Moïse qui va demander à chaque tribu, dont elles sont 12, donner une verge avec l'inscription de la tribu sur chaque verge. Par contre, sur une, ça remarquait Aaron, pour voir un peu que c'est Dieu qui parle. Et il a dit que là, toutes ces 12 verges sont mises dans la tente d'assignation. Et Moïse a dit, celui que je choisirai sera celui dont la verge aura fleuri. N'oublions pas que ces verges, c'était un bois sec. Il n'y avait plus de vie dedans. Et il dit que le lendemain, Moïse, dans la tente de l'assignation, prend une verge fleurie et dont le nom inscrit dessus était Aaron. Alors, je ne sais pas, ça ne vous surprend peut-être pas qu'à partir d'un bois sec, il puisse y avoir des fleurs, si c'était que des fleurs. Mais il y a aussi des fruits. Et c'est des amandes. Il est dit que cette verge d'Aaron a été conservée et mise comme un signe pour les enfants de la rébellion afin de faire cesser les murmures et qu'ils ne meurent pas. C'était quelque chose de très solennel. C'est le psaume 1 et aussi Jérémie qui compare le croyant à un arbre. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, on connaît ce psaume, hein, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez qu'à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, quand vous arrivez au chapitre 21, entre 20 et 22, il est parlé des feuilles qui donneront la guérison aux nations. Il y a d'autres situations qu'on pourrait voir, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Par exemple, Noé avait la sortie de l'arche. Vous connaissez ça ? Quand Noé sort de l'arche, il n'est pas sorti comme ça. Il fallait que le sol soit redevenu sec. Et pour cela, il envoie une colombe et qui revient avec une branche d'olivier. Oui, voilà, un autre arbre. Vous avez aussi Élisée. Je crois qu'il y a quelques mois en arrière, il y a eu une prédication sur ça. Le bois qui est jeté dans l'eau pour récupérer le fer de l'âge. Le bois, on retrouve le bois partout, tout le long. Et ce qui se passe aussi dans le désert, c'est cette perche qui est dressée parce que le malheur atteint le peuple encore parce qu'ils avaient murmuré et que des serpents les mordaient et ils mouraient. Et cette perche, avec un serpent sur la perche, et celui qui regardait ce fameux serpent était guéri. Alors, on pourrait parcourir encore l'Ancien Testament comme ça et s'apercevoir que l'arbre est souvent mentionné. Dans le Nouveau Testament, il faut reconnaître que les arbres sont beaucoup moins mentionnés, beaucoup moins. Mais il est intéressant de s'arrêter sur le début du ministère de Jésus. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 43-51, qui relate la rencontre avec Nathanaël. On connaît ça, hein, la rencontre avec Nathanaël. Hein. Dans un premier temps, on sait que c'est Philippe qui dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » La réponse de Nathanaël, elle est cinglante et sans appel. Que peut-il venir de Nazareth? Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de là-bas? Et on sait que Philippe ne se décourage pas à cette réponse. Il dit, viens et vois. C'est un peu ce qu'aujourd'hui encore, on peut dire du haut d'une chaire. On peut dire, tu veux connaître Jésus? Viens et vois. Et puis Jésus, voyant venir Nathanaël, va dire, voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël le regarde et lui dit, mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus va lui dire, je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe vienne t'appeler. C'est étonnant, on n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'il faisait sous le figuier, Nathanaël. Mais on peut imaginer, n'est-ce pas? Et là, Nathanaël, tout confus, lui dit, « Maître, tu es le fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Oh. » Et Jésus va lui répondre, « Parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Quelle parole! Je ne sais pas si on... Est-ce qu'on prend conscience quand Dieu parle? Là, il est en train de dire quelque chose que quelqu'un a vécu dans l'Ancien Testament. C'est Jacob. Il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Et là, Jésus est en train de dire, vous verrez monter et descendre sur le Fils de l'homme les anges. Dans Matthieu, il nous a dit quelque chose qui est fort, et je crois que c'est important de le dire peut-être ce matin. Alors qu'un matin, Jésus retourne en ville, il eut faim, ce qui montre que Jésus, il était comme nous. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, il vivait pleinement, ce qu'on peut dire qu'il peut nous comprendre parfaitement, nous qui vivons actuellement. Et là, donc, en retournant sur la ville, qu'est-ce qu'il voit? Un figuier. Il s'en approche, mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et il est dit qu'à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples sont surpris. Ah ben, il y avait de quoi, hein? Et ils lui disent, mais comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? La réponse de Jésus peut paraître surprenante et pourtant elle doit nous faire réfléchir. C'est ça qui est important. On ne réfléchit pas assez. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui est fait à ce figuier, mais même quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Alors, moi, je dois vous dire quand même honnêtement, quand j'ai commencé à lire ce passage, il y a 36 ans en arrière, je me suis dit, mais Seigneur, cet arbre n'avait rien demandé. Il était beau, il avait des belles feuilles, il n'avait pas de fruits, d'accord, mais pourquoi ne lui laisser aucune chance? Ça va? Pourquoi? Peut-être que l'année suivante, il aurait porté du fruit, peut-être. Oui, ça, c'était l'interrogation que je me faisais moi-même à l'époque. Et quand j'ai préparé cette prédication, c'est tout récent, il y a quelques mois en arrière, je me suis dit, mais derrière, peut-être que ce passage-là qu'on vient de voir, il y a peut-être un autre message. Et je vais essayer de vous le donner. C'est mon interprétation. D'accord? Si l'homme est comparé à un arbre, si nous pouvons être comparés à un figuier, si nous pouvons paraître, je dis bien paraître, avec un beau feuillage, étant bien reluisant, très beau, comme un homme qui est avec son costume, hein, c'est peut-être les feuilles, mais que dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis sec, mais sec. J'ai même un beau langage chrétien. Je peux avoir de belles paroles. Je peux prononcer même des discours très spirituels. Mais au fond de moi, au fond de mon cœur, il y a une sécheresse. C'est vraiment la sécheresse que Dieu voit, lui. À lui, on ne peut pas cacher. On peut cacher aux autres. Oui, je peux vous cacher, moi. Je veux dire, je m'appelle Georges, Georges Clément, pour être complet. Et je peux vous dire, mais j'aime le Seigneur et je vous aime. Et tout compte fait, dans mon cœur, il n'y a absolument rien. J'ai une apparence. Et au bout de 20 ans, 30 ans, j'ai la même apparence. Vous savez que dans la Bible, il est dit que quand on sera auprès du Seigneur, on sera étonné. Étonné de voir certaines personnes qu'on ne pensait pas, et étonné que d'autres qu'on pensait qu'elles y seraient n'y sont pas. C'est ça la tragédie. Moi, je sais que personnellement, je tiens à y être. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est important. Notre vie, elle ne tient pas, comme on dit, à un fil. Elle tient à une éternité. Et cette éternité, avec qui on la passera ? Soit avec Dieu, soit avec le diable. Eh oui, ben, il faut le mentionner, celui-là, parce que souvent, on n'en parle pas. Je ne veux pas en parler pour qu'il ait la première place. Mais en même temps, il faut savoir avec qui je suis. Hop. Je ne me cache pas. Hein. Quelques temps plus tard, les disciples s'approchent de Jésus et vont poser cette question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une bonne question, une bonne interrogation. Le Seigneur leur fit des recommandations contre la séduction du monde. Alors ça, je peux vous assurer que la séduction du monde, elle n'a jamais été aussi forte que maintenant. Et je le dis aux jeunes aussi, mais les vieux sont concernés aussi. Faites attention, veillez, Internet, télévision, bien sûr, tout ce qui amène une image et des paroles. Veillez, nous sommes appelés à veiller, parce qu'il y a le danger derrière. Oh, vous allez me dire, oui, mais tout n'est pas mauvais. Oui, bien sûr, tout n'est pas mauvais. Mais si vous sortez la partie mauvaise, vous allez voir qu'il ne reste plus beaucoup de bon. Et le Seigneur va faire cette recommandation à ses disciples, donc contre la séduction du monde et contre les bruits de guerre. Mais cela, dit-il, ne sera pas encore la fin. Il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Et Jésus va terminer ses recommandations par ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Vous voyez, on a vu beaucoup le figuier, là. Hein, faut reconnaître. Du début de Genèse jusqu'à maintenant, le figuier tient une place. Et il dit, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Matthieu 24, verset 3, 32, 33. Le dernier arbre que je voudrais vous parler avec vous, vous partager, c'est un arbre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est un arbre, point final. Mais cet arbre-là a subi un certain outrage. Il a été coupé à la hache, élagué sans précaution pour devenir le croix. Ah, ça a disparu là. Merci. Là, il y en a trois. Hein. Voilà. Pour être de la croix de Golgotha. Je crois qu'il est important de revenir à ce moment crucial de la croix. Vous savez, dans la prédication, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on parle de Dieu, si on n'arrive pas à la croix, le message, ce sera un orateur qui aura bien parlé, mais la substance manque. Et moi, je crois que la croix est l'élément majeur qui permet à la créature, quelle qu'elle soit, peu importe d'où elle vient, de venir au pied de la croix. En tout cas, cet arbre, dont on ne sait pas si c'est du chêne, enfin, peu importe, c'est lui qui va porter le Seigneur, qui va être cloué sur cette croix. La tristesse, si je vous dis ça, la tristesse a gagné les arbres. Il y a quelque chose que je n'ai pas lu tout à l'heure, je voulais le lire au départ, mais je ne l'ai pas fait, parce que, donc, comme je vous ai dit, j'avais préparé ce message il y a plusieurs mois en arrière, et il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai vu qu'il y avait des enquêtes qui avaient été faites sur les arbres, la vie secrète des arbres. Je ne vais pas tout vous lire, mais une des enquêtes a donné ceci. Ils communiquent entre eux, s'entraident et souffrent comme tant d'autres êtres vivants, qu'ils soient en forêt, isolés ou en ville. Promus au rang de phénomène de société, révélateur de notre besoin de retour naturel, les arbres nous dispensent une véritable leçon de vie. Ah. Et l'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique, qui ont fait aussi des recherches biologiques, et ils ont établi que certains arbres voyaient leurs congénères dans une forêt. Aussi peuvent-ils détecter une partie du spectre lumineux grâce à plusieurs types de pigments. La vie, on pense qu'il n'y a que nous qu'on a la vie, mais tout ce qui nous entoure a la vie. Et c'est pour ça que moi, personnellement, maintenant, un arbre, quand je le regarde différemment de ce que je regardais avant. Avant, un arbre, c'est un arbre, point final. Mais derrière même un arbre, il y a la vie. Il y a la mort de l'arbre, l'hiver, hein, les feuilles tombent, il y a comme une mort qui est là, et puis au printemps, oh, la vie. Et là, les soirs, on retrouve ça avec la croix. En tout cas, ce jour-là, de la crucifixion du Seigneur, quand vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que la création de Dieu a été dans l'ensemble, dans la tristesse. Oui, j'aime pas bien le mot tristesse. Alors pourquoi je dis ça? Quand vous lisez, il y a très peu de choses qui sont marquées, mais il y a suffisamment pour comprendre. Ce qui nous est dit que la nuit est tombée alors que c'était à l'heure du jour où c'est le plus chaud, là où le soleil brille le plus. C'était l'heure où l'éclat de la lumière est tel que vous ne pouvez pas regarder le soleil. Et il nous a dit que la nuit a enveloppé tout cela. Et moi, je crois que même les arbres ont été tristes, parce que c'était un des leurs qui portait le Seigneur. Et je me dis, mais cette tristesse, alors, était si grande. Et en même temps, je me dis, il s'est passé quelque chose de merveilleux, et on le sait, bien sûr, c'est que si la mort a fait son œuvre, 3 jours après, la résurrection. Résurrection. Et on peut dire que là, les arbres, une manifestation de joie. Rappelez-vous, la nuit est tombée, c'est vrai. Il nous est dit qu'il y a eu un séisme, une violence telle que des tombes se sont ouvertes. Des saints sont sortis, ressuscités. Il nous est dit que le rideau du temple, de haut en bas, s'est déchiré. Je ne sais pas si vous avez assisté à un cyclone ou un ouragan. Nous, on a eu, je ne sais pas si c'est la chance, de vivre 3 ans à l'île de La Réunion. Et la première année qu'on est arrivé, cyclone. Mais c'est impressionnant. impressionnant comme à un moment donné, il y a un silence complet qui s'établit. Mais un silence pesant. Les oiseaux, tout se tait. Et je me dis que là, la crucifixion, ça a dû être un peu dans ce genre-là, et peut-être même amplifié. Alors je voudrais arrêter là. Peut-être ce que dira Paul plus tard. Il va dire ceci, c'est dans Romains 8. « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. J'ai proposé qu'on termine par un chant. Hein? Un chant qui va nous parler justement de cette joie des arbres. Et je crois que, peut-être on verra après le chant. Comme dit Pierrick,
ouais.
La réalité de la vie, la manifestation de la puissance de Dieu, mais sont à travers les arbres déjà. Alors, quel arbre je vais être? Non, ne soyez pas un arbre. Soyez ce que vous êtes. Simplement, que ce soit une leçon pour moi, pour vous, de devenir comme Dieu veut que je sois. Et ce que Dieu veut, c'est que je puisse le louer, que je puisse l'adorer à chaque instant de ma vie. Pas que le dimanche matin, parce que là, c'est facile. Dimanche matin, on est ensemble, on chante des beaux chants, interprétés par des chanteurs et chanteuses de qualité supérieure. Non, c'est sa parole qu'il faut surtout mettre dans notre cœur. Il faut qu'elle devienne en nous un peu comme ce que Jésus a pu dire à cette Samaritaine. Des fleuves d'eau vive vont couler du sein de mon cœur. Bon, je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et il veut le faire. À condition que vous le vouliez. Amen. Voilà. Merci. Au revoir.
Un immense merci pour ce qu'on a reçu ce matin. Avant de parler du programme de la semaine, j'ai mis au fond de la salle le communiqué de presse du CNEF pour les 500 ans de la réforme. Et je le trouve intéressant, alors voilà, je voulais vous le partager. Tu peux baisser un peu le son, s'il te plaît. Merci. On a reçu les flyers pour la fête de Noël. Donc notre fête de Noël qui aura lieu le 9 décembre à 20h30. Il y a deux piles de flyers, servez-vous, distribuez-les. Il y a aussi une vingtaine de flyers format A3 qui sont là pour être mis dans des magasins, peut-être dans les mairies, à vous de voir. Voilà, partout là où ça peut être utile. Utilisez-les, il est vraiment sympa ce flyer. Entre ciel et terre, notre fête de Noël. Concernant le programme de la semaine, je vous laisse le découvrir à l'écran. Mardi, on a notre étude biblique, une fois par mois. Et je vais laisser Pierrick vous en dire deux mots.
Mardi, l'étude biblique, on continue sur les sujets de paroles que Jésus a dit, qui nous heurtent un peu, qui nous dérangent, qui paraissent un peu bizarres humainement. Clément, tu mets la dernière image que j'ai mis dans le set, s'il te plaît. Voilà, moi je cherchais une image pour représenter la colère. Et j'avais mis plutôt Astérix et Obélix qui se frottaient, parce que c'était plus ma génération. Et mon fils m'a dit non, il faut que tu mettes ça. Et c'est pas mal, je pense que pour ceux qui connaissent ce dessin animé, ça va bien leur parler, le petit bonhomme qui prend les manettes de la colère. Tu peux l'enlever, parce que ça va les choquer sinon. Merci. On veut associer ça à la parole suivante qui est dans Matthieu 5, 22. Quiconque se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Alors, ceux qui veulent venir mardi à 20h30, je vous propose de méditer ce passage. Prenez un peu plus large, Matthieu 5, 20, 26, par là, 27. Et on en parlera ensemble. On en parlera ensemble à la lecture de ce qui est écrit dans la Bible à ce sujet. Je ne vous dis pas que vous repartirez forcément en ayant enlevé toute votre colère, mais je vous invite à venir. Et j'invite spécialement aussi les... pour ceux qui étaient là au week-end d'église, tiens, il n'y a pas le dernier, celui d'avant, il y a deux ans, un an et demi. Les gars qui sont dans leur grotte, là, en colère, là. Sortez de votre grotte, venez mardi, on va en parler. Sortez de votre grotte, restez pas dans cette grotte. Le monde nous propose plein de trucs pour la colère, du yoga, aller hurler sur la montagne, moi de temps en temps je le fais, ça me fait du bien. Je sais pas quelle est votre méthode, mais prenez votre Bible, on va faire ce partage autour de ce sujet. Donc relisez Matthieu 5, 20, 26, et puis venez nombreux. Merci.
En fin de semaine, samedi, il y a des travaux qui vont se passer ici. La commission de travaux se réveille. Vous voyez le couloir qui est au fond, qui distribue les différentes salles d'école du dimanche. Eh bien, la paroi de gauche du couloir et la paroi qui est derrière la librairie vont être démontées samedi prochain. Alors, si vous vous retournez, vous pouvez voir qu'au fond de la salle, il y a un plastique qui est fixé au mur. Sur la partie qui permet d'accéder au fond, on a fixé ce plastique hier. On va donc fermer l'espace pour éviter qu'il y ait la poussière qui vienne ici. Et donc, samedi prochain, on va démonter ces parois parce que le couloir est trop étroit par rapport à la sécurité. Donc, on doit d'abord démonter, puis ensuite, on va reconstruire. Donc, samedi prochain, on a besoin d'un coup de main. Alors, on n'a pas besoin de 50 personnes parce que c'est pas non plus très grand. On a demandé à 2-3 personnes, mais on voudrait surtout frustrer personne. Si quelqu'un veut nous donner un coup de main pour venir démonter, alors bien sûr, il ne faut pas avoir mal au dos, il ne faut pas avoir mal quelque part, voilà, il faut être en forme. Mais il y a de la place pour venir donner un coup de main. Il ne faut pas non plus vouloir faire la grasse matinée puis vouloir donner un coup de main parce qu'on a prévu de se retrouver à 7 heures. Alors voilà, si quelqu'un veut venir... Vraiment, soyez libres, venez m'en parler, parce que c'est important aussi qu'on ait les protections et pour faire ça en sécurité. Et puis, on a besoin d'aide aussi à la fin pour donner un petit coup de nettoyage. Donc, on va fermer, on va scotcher le plastique sur le mur et tout, mais on sait que la poussière, ça passe par le moindre petit interstice. Donc, on aurait besoin de 2 personnes en fin de journée, peut-être même en soirée, parce que vous verrez, la journée va être bien remplie. Pour faire un tour ici, dans les petites salles. Oui. Oui, justement. Donc, on va y venir après. Donc, pourquoi pas en soirée pour venir faire un nettoyage pour que ce soit propre pour le culte dimanche prochain. Et puis dimanche prochain, on n'aura pas froid, non pas parce que le chauffage a été réenclenché, mais parce que la salle sera plus petite. Donc voilà, on serrera un petit peu les chaises et tout se passera bien. Samedi prochain, pas de cross-training pour le coup. Activité aussi qui s'arrête. Si vous voulez continuer pour vous, regardez avec Pierre. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous donner des conseils par rapport à ça. Samedi prochain, à 14h30, l'exposition sur la réforme protestante avec pour thème « Quel impact aujourd'hui ?» Donc il y a encore quelques flyers au fond, prenez-en. Donc, ça va se passer à la salle Jean Monnet à Saint-Genis, donc samedi prochain à 14h30. Ensuite, à 16h, il y aura une conférence du professeur Ascani. Alors, pour tous ceux qui étaient là au culte en commun de ce printemps, c'est lui qui a apporté le message. Et puis, à 17h, très important, explosion de louanges. Je vais laisser la place à Jacques pour nous dire quelques mots.
Voilà, on est en train de vous faire le programme pour samedi prochain. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous pourrez faire les courses à Val-Thoiry. Juste avant Explosion de Louanges, qui est juste en face, à quelque part, l'autre côté de la deux fois deux voies, à Crossroads, à Thoiry, 6 rue de l'Artisanat. Donc, il y a un fitness là-bas, une cour intérieure et une très jolie salle où on va pouvoir célébrer tous ensemble le but. Bien sûr qu'il y a de la musique, bien sûr, si je demande à tous les musiciens, ils vous diront qu'ils aiment jouer de la musique, c'est clair. Mais le plus important, c'est qu'on rencontre les chrétiens des différentes églises et qu'on vive quelque chose ensemble, qu'on apprenne à collaborer, à s'aimer entre nous. Hein, il y a la banque alimentaire, il y a différentes choses, mais ça, c'est aussi une occasion de vivre une célébration tous ensemble, l'église du Pays de Gex. Merci.
Dimanche prochain, vous rappelez, on avait tous les deux mois un culte club d'enfants. Ce culte-là se développe ou évolue vers un culte découverte. Les cultes découvertes, donc, sont particulièrement adaptés aux personnes en recherche. Donc, sachons inviter ceux qui nous entourent, ceux qui nous voient vivre, ceux avec qui on partage dans la semaine, et pour qui ces cultes répondraient à leurs besoins de connaître Dieu, de savoir qui il est, de savoir qu'est-ce que c'est que le salut, etc. Et dimanche prochain, c'est Basile Langoule qui va nous apporter le message. Alors, Basile est aumônier à la résidence Amitié, qui est un foyer pour personnes âgées. Avant d'être aumônier, je ne peux pas vous en dire plus, il se présentera lui-même, mais avant d'être aumônier, Basile était pasteur de rue à Genève. Pasteur de rue, donc les gens qui sont dans la rue, les paumés, les SDF, voilà, et autres. Et c'est une chouette personne. Dimanche à 16h, donc dimanche prochain, il y aura ensuite une table ronde dans le cadre de l'exposition sur les 500 ans de la Réforme, une table ronde à la salle Jean Monnet. Oui, oui, juste. Et puis donc, dimanche, après le culte découverte, on aimerait partager un apéritif avec chacun, surtout ceux qui seront là. Et donc, un des changements, c'est donc qu'il faut s'inscrire pour apporter quelque chose. Ce sera donc plus le club d'enfants qui gèrent l'apéritif, mais c'est l'Église qui va se partager et prendre un petit peu, un petit bout. Et pour qu'on soit clair par rapport à qui c'est qui va amener quoi, il y a une petite feuille d'inscription sur le panneau au fond. Alors inscrivez-vous pour participer aussi à l'apéritif. Petite annonce toute bête, il y a un livre qui a été trouvé sur le terrain, La nature en été, voilà. Il est à jour, il est à toi, très bien, merci. Fin novembre, il y aura donc la banque alimentaire, comme chaque année, et je vais laisser Jean-Paul nous faire un petit topo.
Alors, si vous n'avez pas pu venir travailler samedi, si vous n'êtes pas encore allé aux différentes activités, moi, je vous invite à vous engager. Et même si vous l'avez fait, je vous invite aussi à vous engager. Dans le cadre de la pastorale, donc ça fait des années qu'on est engagé pour la banque alimentaire. Qu'est-ce que c'est la banque alimentaire? Vous savez tout ce que c'est. C'est donner du temps pour récolter de la nourriture pour les gens qui en ont besoin. Il y a 6000 personnes dans notre département qui sont dans le besoin. On récolte tous les ans une bonne quantité de nourriture. La pastorale est engagée dans 3 magasins, Carrefour à Senilly, Colruyt et l'Intermarché de Saint-Genis. Merci, de Saint-Genis. L'église mélonite de Saint-Genis a souhaité prendre ce magasin parce qu'ils ont des contacts un petit peu privilégiés avec eux. Donc, on cherche du monde pour ces 3 magasins. Vous avez reçu des dodoles à remplir. Moi, je vous invite vraiment le vendredi 24 et le samedi 25 novembre à donner 2h30 de votre temps. pour être dispo. Simplement, donner des flyers, ranger des boîtes de conserve dans des caisses, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis, je recherche également une personne qui prendrait la responsabilité du petit magasin Colruyt. C'est un tout petit magasin. Il faut être deux personnes, mais c'est juste la responsabilité, j'aimerais. Qu'une personne la prenne pour le vendredi et qu'une personne la prenne pour le samedi. Vous me demandez, vous me dites, et puis, ou deux personnes, ou la même personne pour les deux jours, voilà. C'est hyper important. Et puis, si le mercredi et le jeudi, il y a une personne qui a du temps pour venir m'aider avec le camion à distribuer toutes les palettes dans tous les magasins, il y en a une trentaine à distribuer de palettes avec les caisses vides, il est le bienvenu aussi. Voilà, ça c'est tout pour ça, mais c'est un engagement important. Vous savez, c'est le samaritain, c'est le bon samaritain qui accueille et qui donne un petit peu de ce qu'il a. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. Autre chose, parcours baptême, ben, on sort de baptême, mais on relance un parcours baptême. Je pense qu'on se retrouvera normalement, on va le décider encore à la fin, vendredi soir ici. Parcours baptême, c'est pour tous ceux qui veulent savoir ce que c'est que le message de l'Évangile. Et savoir pourquoi, tiens, pourquoi il y a cette croix ici, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Et c'est hyper important. Donc si vous êtes intéressés, venez me dire à la fin, et puis autrement, venez vendredi en, je pense, 18h30 ici. Vous serez les bienvenus et ça vous engage à rien du tout qu'à recevoir la bonne nouvelle de Dieu. Voilà, merci.
Merci. Continuons de penser aussi à ceux qui souffrent. J'ai été visiter Anne-Lise mardi, donc elle est toujours hospitalisée à l'hôpital de Loye, elle va bien, elle va même de mieux en mieux. Les greffes de peau artificielle qu'elle a eues aux deux pieds ont bien pris. Elle a retrouvé de l'appétit aussi, c'est important ça. Par contre, elle a peu de visites, alors n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps. C'est précieux pour elle, mais j'aimerais vous dire aussi que c'est précieux pour celui qui visite. Parce qu'Anne-Lise, elle a quelque chose qui communique et c'est super de la visiter. Elle sortira peut-être déjà en fin de semaine, si tout va bien. Si rien n'a été oublié, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore trois versets qui sont tout à la fin de la Bible. Moi, je vous invite à relire ce chapitre 22 de l'Apocalypse, dans lequel il est parlé d'un arbre dont Georges a fait allusion. Je vous lis les versets 17 et les deux derniers versets. « L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif « Vienne ». Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. » Bon dimanche, bonne semaine.